Hélène Créanbulle.
Les impôts des Vaudois baisseront de 7% d'ici 2027, soit davantage que prévu. Le Conseil d'État proposait initialement une réduction de 5%, mais le Grand Conseil a suivi une proposition plus généreuse de l'UDC. Avec cette mesure, le Parlement espère contrer une initiative des milieux économiques qui réclame une baisse de 12%. Les Vaudois voteront sur ce texte l'an prochain. Le Conseil national a décidé hier d'interdire le Hezbollah. Le Conseil des États, qui a déjà validé un texte similaire, devra se prononcer. Quelques jours après le Hamas, c'est donc maintenant le mouvement armé chiite libanais qui est visé. Le Conseil fédéral était opposé au texte. Selon lui, il n'a pas de compétence globale pour interdire des organisations. Il en va de la crédibilité de la Suisse, un État neutre qui peut aider à établir des ponts, estime le conseiller fédéral Beat Jans. Il s'agit donc de miser sur la médiation plutôt que sur les interdictions. Le Premier ministre français François Bayrou se rendra dans l'archipel de Mayotte dès que son gouvernement sera formé. C'est ce qu'il a annoncé hier soir. L'archipel français, situé dans l'océan Indien, a été dévasté par le cyclone Chido. François Bayrou a affronté de nombreuses critiques sur son manque de mobilisation pour Mayotte. Le président français Emmanuel Macron a indiqué de son côté se rendre jeudi dans l'archipel. Le militant écologiste et grand défenseur des baleines Paul Watson est libre. Le Danemark a refusé la demande d'extradition du Japon. Il avait été arrêté cet été pour des actes remontant à il y a 14 ans. Les autorités japonaises l'accusent d'être responsable de dommages à bord d'un navire baleinier japonais en 2010. Paul Watson a donc pu quitter la prison de Nuuk au Groenland après une détention provisoire de près de 5 mois. Denis Maillefer va succéder à Robert Sandeau à la tête du Théâtre du Jura. Il sera donc directeur artistique dès la mi-janvier. Le metteur en scène vaudois a récemment co-dirigé 2 théâtres, dont la Comédie de Genève. Des bancs de brouillard sont attendus ce matin en plaine avec un sommet vers 600 mètres. Sinon, temps globalement ensoleillé malgré quelques passages nuageux. En plaine, il fera minimum moins 1 degré, maximum 6 degrés. Demain, jeudi, temps changeant avec des précipitations à partir de l'ouest en cours de matinée. La limite pluie-neige à 1800 mètres s'abaissera vers 1000 mètres en soirée. Vous écoutez RTS Info, prochain point sur l'actualité à 2h.
L'actualité en continu sur l'application RTS Info.
RTS. À 8h ce matin, une centaine de gendarmes ont investi la commune d'Olon, accompagnés de chiens policiers, pour permettre aux géologues mandatés par la CEDRA d'effectuer les travaux.
Avec le podcast 1001 Archives, revivez des moments de l'histoire suisse. 1001 Archives à écouter sur l'application Play RTS, rts.ch/audio, Spotify, Apple Podcast et la plupart des plateformes d'écoute.
RTS Première, comme une lueur dans la nuit.
Drôle d'époque. Mélanie Crovalian, Simon Mathé-Doré.
Bienvenue à toutes et à tous dans cette drôle d'époque. Bienvenue à vous, chère Mélanie.
Bonjour Simon.
Nous saluons le retour de Samuel Morier-Genoux derrière la vitre qui réalise cette émission en direct jusqu'à 17h. C'est une belle histoire de compagnonnage dont il s'agit cet après-midi. Celle de deux femmes qui se connaissent et s'apprécient depuis longtemps. Elles ont partagé de riches années de vie politique. Elles qui siégeaient toutes deux au sein d'un même gouvernement, le gouvernement vaudois. Et depuis cette année, elles forment un binôme de choc au sein d'une association qui défend les personnes âgées, les aînés comme on dit. C'est-à-dire une population qui passera, on a les chiffres sous les les yeux, d'1,8 million actuellement à plus de 2 millions, 2,2 millions exactement d'ici à 2030.
C'est vous et moi, ça,
c'est oui, à peu près, ce sera vous. Ouais, ça, oui, c'est vous et moi d'ici 10 ans. Bonjour Béatrice Métro.
Bonjour.
Bonjour Anne-Catherine Lyon.
Bonjour.
Émission atypique, deux invités. Mais vous formez ce binôme, on l'a dit, à la tête de l'Avivo, coprésidente de l'Avivo Suisse depuis le 22 avril de cette année. Alors vous êtes toutes deux anciennes ministres, anciennes conseillères d'État vaudoises. Verte pour Béatrice Métro et socialiste pour Anne-Catherine Lyon. Petit CV vite fait comme ça. Béatrice Métro, ministre cantonale de 2012 à 2022, département de l'Intérieur, département des institutions et de la sécurité et de l'environnement et de la sécurité. Il y a eu plusieurs appellations. Anne-Catherine Lyon, évidemment, ministre de 2002 à 2017, chef du département formation et jeunesse. C'était l'instruction publique, en gros. J'ai dit histoire de compagnonnage. Est-ce que c'est comme ça que vous voyez votre relation, toutes les deux?
Oui, tout à fait. On a beaucoup travaillé ensemble au Conseil d'État. On n'avait pas les mêmes départements, vous venez de le dire, mais on avait des échanges, on se soutenait mutuellement, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup échangé. Et maintenant, avec l'Avivo Suisse, on continue à monter cette politique de défense des aînés. On en parlera, j'imagine, pendant l'émission.
On a la même
vision, on a les mêmes valeurs et ce compagnonnage, il va très bien.
Compagnonnage, Anne-Catherine Lyon, d'accord pour le terme?
Non, moi je trouve que c'est un terme fantastique en soi et qui caractérise tout à fait notre relation. En pensant à l'émission d'aujourd'hui, on s'est souvenu qu'on se connaît depuis le début des années 90 parce que nous sommes toutes deux juristes. Béatrice était à l'Institut Suisse de droit comparé et moi j'étais en droit européen et nous avions besoin en droit européen d'avoir accès à l'immense savoir et bibliothèque de l'ISDC, Institut Suisse de droit comparé. Donc on a fait connaissance déjà à cette époque. Et puis ensuite, Béatrice, dans ses activités syndicales, à partir de 2006, sauf erreur, était un des interlocutrices du Conseil d'État. Donc, ça fait vraiment des 30 ans que nous compagnonnons avec beaucoup de bonheur.
Sans nuage. Aucun nuage.
Non. Pourquoi y en aurait-il?
Je demande juste pour savoir.
Et l'amitié, parfois, peut subir quelques nuages, mais ce n'est pas votre cas, visiblement.
Non, mais je crois qu'on est fait un peu du même bois, au fond. Dans le sens où ça peut nous arriver d'être grognons, par exemple, l'une ou l'autre, mais ça n'a pas de conséquences. C'est compagnonnage ou une sorte de sororité, en fait. On a commencé une discussion en 1990, et puis on la poursuit depuis lors. Donc c'est vraiment ce côté extrêmement agréable de cette relation vraiment importante et forte, mais sans ces espèces de soubresauts des fois compliqués. Quoi.
Verte et socialiste, j'imagine que parfois vous n'êtes pas d'accord sur tous les sujets. Alors certes, on va dire que c'est la gauche au sens large, mais enfin les Verts et les socialistes ne se sont pas toujours entendus.
Chacun a ses convictions, chacun défend, je dirais, une partie du territoire politique. C'est vrai que les Verts, on a des convictions écologistes, c'est vrai qu'on défend l'environnement, c'est vrai qu'on défend la biodiversité. Avec quel succès? Il faut voir les élections valaisannes de ce week-end. Mais je dirais qu'avec Anne-Catherine, Verte et socialiste, on a la même, disons, les mêmes valeurs. Et c'est ça qui est essentiel. Qu'importent les partis, on a les mêmes valeurs. Le respect des institutions, la ténacité. On a la défense de l'intérêt, je dirais, des précarisés, et les Verts et les socialistes. On a aussi une... Bon, on a mauvais caractère, elle et moi, donc ça nous aide.
Si c'est vous qui le dites, alors...
Ça nous aide bien dans la défense de nos intérêts,
mais... mauvais caractère, pardon, je m'arrête sur le terme, parce que souvent on dit « Ah, il a mauvais caractère ». Ça veut dire quoi, d'avoir mauvais caractère? Ça veut dire que vous êtes tenace, que vous êtes un peu têtu, que vous avez au bout des choses. C'est ça le mauvais caractère?
On est tenace, parfois grognon quand on n'y arrive pas. Anne-Catherine a utilisé ce terme de grognon que qui nous correspond bien. Donc,
mais jamais l'une avec l'autre.
Ah non.
Ouais, non, vous voyez,
je crois pas, non. Et puis, c'est vrai que lorsque l'on fait les choses avec beaucoup de sérieux, d'engagement, sans esbrouffe, eh bien, ça, on n'a pas cette dimension peut-être de la séduction souvent utilisée en politique, qui est aussi une arme tout à fait bonne. Il y a des gens extrêmement doués là-dessus, et c'est tout à fait bien. Chacune et chacun a son style. Donc, ça nous fait de nous des personnes assez directes. directe, mais d'une grande loyauté envers les gens, et puis dans ce qu'on a pu défendre au Conseil d'État. Puis je dirais aussi que Béatrice m'a ouverte peu à peu, à force de sa ténacité, aux réalités écologiques, la biodiversité. Donc ça il y a aussi tout cet élément qui vient d'une relation au long cours. Et puis l'engagement syndicaliste de Béatrice a fait que du point de vue des socialistes, elle était beaucoup plus proche des socialistes par cet engagement syndicaliste, en fait.
Quand on mélange du rose et du vert, je sais pas quelle couleur ça donne.
Ah ben, je sais pas ce que ça donne, le rose et le vert.
Ça donne la coprésidence de la Vivo.
C'est ça. Vous voyez, vous avez repris la balle au bon, Béatrice Métro. Alors, la Vivo Suisse, on va pas mal parler de la situation des aînés en Suisse. Comment êtes-vous arrivé à cette coprésidence? Donc, c'est tout récent, ça même pas une année, avril 2024. Vous êtes nommées toutes les deux. Ça a été une candidature commune, vous l'avez pensé comme ça dès le départ?
Probablement que quand on a été alerté sur cet élément-là du fait que Christiane Jacques-Héberger, à laquelle il faut vraiment rendre hommage, qui a porté la Vivo Suisse et la Vivo Lausanne pendant plus de 25 ans, elle souhaitait ardemment que quelqu'une ou quelqu'un prenne à sa suite, parce que si elle m'entend, je lui adresse un très amical salut, 87 ans.
Et là, Elle a passé la main à 87 ans. Elle a travaillé jusqu'à 87 ans.
Tout à fait. Et c'est fantastique. Extrêmement significatif. C'est remarquable. Et puis, la Vivo Lausanne, elle souhaitait remettre. On a eu des discussions, on avait eu tout un travail politique ensemble. Il s'est trouvé que j'étais présidente du Conseil d'État lorsqu'elle a été présidente du Grand Conseil. Et là, ça a été une année qui nous a marqués, elle et moi. J'ai toujours eu des très bonnes relations avec les popistes, donc on est restés comme ça liés. Donc à Vivo Lausanne, et puis ensuite à Béatrice.
Et pour moi,
à
Vivo Vaud, un petit peu plus tôt qu'Anne-Catherine, à Vivo Vaud en juin 2023, le président d'Avivo Vaud de l'époque a arrêté son mandat et on m'a demandé si je voulais pas reprendre l'Avivo Vaud. Et avec Christiane Jacques-Héberger, j'avais toujours eu des bons contacts. Lorsqu'elle organisait les Noëls de l'Avivo Lausanne, elle me sollicitait. Étant d'une génération après la Seconde Guerre mondiale, une partie de ma famille à cet âge respectable dont il faut s'occuper. Donc moi, j'étais sensibilisée aux retraités, aux aînés, au troisième âge, voire quatrième âge. Et je me suis dit, mais pourquoi pas reprendre la Vivo Vaud? Je trouvais que c'était dans la continuité des activités politiques et dans la continuité de mes propres valeurs. Donc j'ai repris à Vivo Vaud. Anne-Catherine reprend à Vivo Lausanne. Et finalement, Christiane Jacques-Héberger nous a dit, mais pourquoi vous ne reprendriez pas la Vivo Suisse toutes les deux? Que nous avons fait.
Quels sont les bénéfices d'une coprésidence?
Ça permet, disons, moi je ne sais pas à ce jour comment Christiane Jacques-Héberger
faisait ça seule,
et ça nous a paru évident de faire cela ensemble, pour le plaisir de travailler ensemble à nouveau, mais aussi pour démultiplier notre action. Ouais. C'est-à-dire qu'on fait à la fois des choses ensemble et des choses chacune de notre côté, qu'on a convenu ensemble, au nom de la Vivo Suisse, donc ça permet d'avoir encore plus d'impact. Et ça, c'est un élément qui nous permet vraiment d'amener beaucoup de vigueur dans la Vivo Suisse.
Et puis ce sont des questions quand même qui sont difficiles, les questions liées au troisième, au quatrième âge et la place, et on en reparlera certainement, la place de l'aîné dans la société. Et je trouve qu'on n'est pas trop de deux pour remettre l'aîné au centre des discussions, qu'elles soient politiques, financières, des discussions sur la santé. Et on n'est pas trop de deux. De deux, il y a l'échange, il y a parfois des contradictions. On parle, on construit ensemble. Et ça nous donne aussi, ça nous motive, ça nous donne une belle énergie.
Après tout, si on fait le calcul, vous représentez quasiment un quart de la population suisse. On est à 9 millions, mais ça fait quasiment 2 millions, donc un peu moins d'un quart. 1,8 million de personnes aujourd'hui âgées de plus de 65 ans, plus de 2 millions d'eux en 2030. Alors, à Vivo, on n'a pas dit à l'époque de sa création dans la foulée de l'AVS en 1948-49, ça voulait dire Association des vieillards invalides, veuves et orphelins. Bon, le terme a été un peu retoqué dans les années 80. Ça s'appelle aujourd'hui Association de défense et de détente de toutes de toutes les retraitées et futures retraitées. Il y a le mot défense, évidemment, mais il y a le mot détente aussi.
Oui, tout à fait.
Ça, c'est important.
Oui. Quand on va sur votre site, d'ailleurs, c'est rigolo, parce qu'il y a des activités, on a presque envie d'être retraité pour aller les faire.
Mais comme vous le disiez il y a un instant, ça nous arrivera bientôt.
Oui, c'est vrai, donc je m'en réjouis.
Ben voilà, on pourra s'inscrire. Détente, donc.
Détente, c'est le terme consacré, on découvre, Béatrice et moi, l'ensemble des vocabulaires de ce nouvel univers. Et la dimension de la détente est couverte par la Vivo et de nombreuses associations. Sur le champ de la détente, ça veut dire, c'est le vivre ensemble, c'est sortir les gens de l'isolement, c'est proposer des activités qui permettent à la fois de se maintenir en forme par de la gymnastique, par, il y a beaucoup de succès avec le thé dansant, les marches sont très courues, vous qui aimez la montagne et la marche, vous seriez un très bon moniteur dans le futur. Mais
vous savez déjà, vous irez. Hein.
Je me fais déjà recruter. Ben, dans 10 ans, c'est bon. Dans 10 ans, c'est
parfait.
Bon.
On sera
vous savez
là.
Que vous n'êtes pas obligé d'avoir 65 ans pour adhérer à la Vivo. Hein.
Ah, très bien. Ah, ben, ça, c'est une information importante. Tiens,
mais oui, bien
on
sûr.
On peut adhérer en n'ayant pas l'âge de retraite.
Mais bien sûr.
Ben voilà.
D'ailleurs, nous allons commencer des grandes campagnes de recrutement, le mieux que l'on pourra. Et puis, cette occasion magnifique de pouvoir venir dans cette émission nous permet de parler de la Vivo, de porter ce message plus loin, de rappeler l'existence de cette association qui, comme je l'indiquais à l'instant, sous le champ de la détente, le vivre ensemble, améliorer le quotidien dans le sens de cette convivialité. Beaucoup d'associations sont sur ce champ ou de grandes fondations sont sur ce champ, mais nous avons la quasi-exclusivité du champ politique. Parce qu'au cœur des statuts de la Vivo, que ce soit Vivo Suisse, Vaud ou bien les différentes sections, idem pour l'ensemble du pays, eh bien le premier but, c'est la défense des intérêts sur le plan politique.
Contrairement à une organisation comme Prosenectute, par exemple.
Qui va offrir des activités, mais pas forcément se battre à bas.
Ah oui. Pas battre sur le champ politique.
Ça, c'est une nuance de taille.
Oui, c'est une nuance de taille. Je reviens à la détente. La détente, elle existe tant dans les sections de la Vivo Vaud, par exemple, que dans les sections régionales. Donc, chaque section organise tout un tas d'activités qui permettent aux personnes de se retrouver présentes dans la société. Quand vous marchez, vous rencontrez des gens, quand vous allez au restaurant, vous pouvez discuter, quand vous jouez aux cartes, ça vous fait travailler les ménages. Et finalement, ça permet une plus grande ouverture et de rester dans la société, d'être en marche avec la société et non pas rester chez soi. Et finalement, c'est aussi ça, la détente, c'est ça qui est important pour nos membres, c'est d'être tout simplement vivant dans la société.
Mais ça veut dire qu'on pourrait s'inscrire, tout le monde peut s'inscrire pour faire ses activités.
Tout à fait. On est heureux d'ailleurs quand il y a des gens d'âge divers qui sont membres de la Vivo ou qui viennent participer à ces activités. Et puis un des grands moments, un des temps forts de la Vivo Lausanne, mais qui est presque légendaire à l'échelle de l'ensemble de la Vivo, c'est le grand Noël de la Vivo Lausanne qui, dans ses plus fortes années, rassemblait 1200 personnes pour un repas offert aux membres. Et là, on sera de l'ordre de 450 à 500 personnes le 8 décembre et c'est un moment merveilleux. C'est à Beaulieu.
À Beaulieu. Bah, c'est bien de signaler. On peut s'inscrire encore, j'imagine.
Et puis vous, Simon, je vous inscris pour la marche. Moi, j'irai au thé dansant.
Absolument. Moi, j'aime bien le thé dansant aussi.
Ah, bon, on va danser.
Ah, il y a des visites de musées aussi. À Vivo Lausanne organise des visites de musées.
Question rituelle que je place au centre. Comment allez-vous dans cette drôle d'époque en ce 12 novembre? On commence par Béatrice Métrou, ensuite Anne-Catherine Lyon.
Alors moi, je me sens en action. En action, parce qu'il y a la Vivo, parce qu'il y a différentes fondations, parce qu'il y a un conseil d'administration, parce qu'il y a la ferme de mon fils, il y a mes petits-enfants à garder, ma famille en France dont je m'occupe aussi. Donc voilà, je me sens en action et donc bien.
C'est encore plus de travail que quand vous étiez conseillère d'État. Je pose la question très sérieusement.
Les petits-enfants n'existaient pas encore quand j'étais conseillère d'État, donc je ne les gardais pas. Puis je consacrais mon temps au Conseil d'État. Et maintenant, j'ai du temps pour consacrer à d'autres choses.
D'accord. Anne-Catherine Lyon.
Moi, je me sens combative et je me sens à la bonne place pour pouvoir agir. Et c'est pour ça que ce mandat à la tête de la Vivo Lausanne, respectivement co-président de la Vivo Suisse, ça donne une énergie extraordinaire de pouvoir refaire de la politique, mais d'une autre manière. Et ça, pour moi, c'est très important, tout comme Béatrice, et d'avoir cet outil extraordinaire entre nos mains. Avec, on n'a pas encore parlé du comité, nos comités sont très participatifs, on sent qu'il y a toute une culture d'extrême gauche, ça a été créé par le POP, ne l'oublions pas, la Vivo, donc c'est ce souhait de prendre les décisions en commun avec celles et ceux qui sont élus dans les instances, et cette combativité que j'ai toujours eue, je la mets au service des aînés, et au fond, pas seulement des aînés, parce que nous voulons faire vivre à nouveau de manière très forte les deux autres lettres, les deux dernières lettres d'Avivo, à savoir la cause des veuves, qui sont très mises à mal ces temps dans la politique suisse.
On veut supprimer la rente. Ouais.
On veut supprimer la rente à vie. Je suis personnellement totalement scandalisé, étant juriste, que l'égalité à nouveau se fait par le bas et non pas vers le haut. Qu'il y ait une inégalité entre veufs et veuves, c'était bien de le constater, mais on aurait pu égaliser les veufs en direction des veuves et non pas égaliser vers le bas. Et puis les orphelins, ça paraît un terme un peu dépassé, mais il y en a en Suisse de nombreux. Et pour eux, le fait que les ressources de l'État s'arrêtent à l'âge de 25 ans est une source de préoccupation, parce qu'à 25 ans, si on a eu un parcours difficile par le fait d'avoir perdu ses parents, eh bien peut-être que l'âge n'est pas tout à fait adapté, notamment le soutien pour les études. Et puis, ensemble avec les autres associations très nombreuses, très combatives sur le champ des personnes en situation de handicap, nous faisons partie de Forum Handicap Vaud, nous allons là aussi intensifier. Donc c'est vraiment un champ qui couvre au fond l'ensemble de la population.
Et vous n'êtes que deux et quelques alors, personnes autour.
Nous sommes que deux, nous avons un secrétariat efficace, mais nous avons un comité. Dans notre comité suisse, on a les présidents de chaque section cantonale. Ouais. Donc Bâle, Berne, Zurich, Bienne, Genève, Fribourg, Jura, enfin... Donc on a vraiment les représentants de toute la Suisse. Et pour ça, on se réunit grosso modo toutes les 6 semaines. Donc vous voyez, c'est quand même assez important. On prend des décisions de nature politique, comme les statuts nous autorisent à les prendre. On soutient aussi les sections dans leurs actions. On échange chacun dans sa langue, donc ça c'est très bien. Et ça permet de donner une belle dynamique à la Vivo Suisse dans sa dimension défense des intérêts matériels, personnels, politiques, mais aussi dans la défense veuve et orphelin, comme Anne-Catherine l'a dit, où on prendra position au moment lors de la consultation sur les nouvelles idées du Conseil fédéral.
Oui, on
que nous ne partageons pas.
Oui, on imagine. Il y a quelque chose qui...
Pas le caractère, vous avez dit
mauvais caractère, je crois que c'est le terme qu'elle a employé.
Mais c'est les meilleurs, à part ça.
Bah, oui, bien sûr. Tout on a plaisir de vous avoir toutes les deux, Béatrice Métro et Anne-Catherine Lyon. Dans un instant, ce sera le moment de tension de l'émission, puisque Mélanie va faire, je ne sais pas comment...
Alors, un portrait de deux invités,
c'est rare. Un portrait de deux invités. On va voir ce qu'elle vous réserve et ce qu'elle nous réserve. On salue tout notre auditoire de plus de 65 ans, mais aussi tous les autres, parce qu'on a aussi pas mal de gens d'en dessous de 65 ans qui nous écoutent.
De 7 à 77.
De 7 à 77 ans et même au-delà. Tout pour moi, c'est Clara Luciani, extrait de son dernier album.
Drôle d'époque.
T'es qu'un grain de poussière sur cette terre. Si on dézoomait le planisphère, je te tiendrai entre mes doigts. Je te tiendrai entre mes doigts. Je ne sais pas si l'histoire retiendra ton nom, ton profil, si tu écriras un livre ou un opéra.
pilastre de sphère. C'est une fois par millénaire. C'est une fois par millénaire.
Clara Luciani, tout pour moi, 15h27 en direct sur RTS. La première, c'est Drôle d'époque avec Béatrice Métro et Anne-Catherine Lyon, coprésidente de La Vivo. L'une est née à Arcachon, mais a passé les 25 premières années de sa vie à Roubaix. L'autre à Lausanne. Elle est allée aussi à la Vallée de Joux beaucoup. Et c'est l'heure du portrait, Mélanie, on y va?
Oui, alors c'est un peu de science-fiction aujourd'hui.
Voilà. Ah ouais. Une fois n'est pas coutume.
Une légère brise souffle sur les platanes qui bordent le Léman, sur les quais d'Ouchy. Béatrice et Anne-Catherine finissent leur dernière gorgée de café. Anne-Catherine racle le petit bol qui contient encore une goutte de glace à la pistache fondue. Elle demande l'addition. Dans un même mouvement, après avoir payé, elle se lève et se dirige vers la piscine de Bellerive. Quelques rares passants les croisent, une jeune femme en tenue de sport qui court avec son chien, un papa et son bébé dans la poussette, une infirmière qui pousse une vieille dame dans sa chaise. Les deux femmes se regardent et la même pensée les traverse. Quelle chance d'être encore en pleine forme, à respectivement 81 et 88 ans. En cette année 2044,
ah oui,
elle prépare même déjà un long voyage pour les 90 ans de Béatrice, dans 2 ans. Pour le moment, munies de leurs lunettes de soleil, elles ne ralentissent pas le pas et arrivent bientôt devant une petite tente blanche familière, flanquée de parasols publicitaires. Elles entendent leurs camarades de jeu, qui sont déjà en pleine action sur le terrain parsemé de gravier. Leur maître en la matière, venu de Marseille, tient le crachoir.
À Marseille, c'était sport national parce qu'il était à la portée de toutes les bourses. Quel qu'il soit l'ouvrier, même la classe moyenne, même n'importe qui, quand il arrive le soir de sa journée, c'était dès la semaine de faire une petite partie au boule, soit à la pétanque, soit à la longue. Et c'était sport qu'on peut faire parce que ça ne coûte pas cher. Et on ne perd pas beaucoup.
Cet après-midi, comme tous les lundis de l'été, c'est pétanque à La Vivo, à l'association qu'elles ont co-présidée pendant des années. Anne-Catherine et Béatrice sont très fières que ces activités qui existaient déjà à l'époque perdurent dans le temps. Toutes deux entrent dans le périmètre réservé à la pétanque, une partie est en cours, elles regardent, commentent et rigolent. Anne-Catherine lève les yeux et regarde en direction du lac, d'où provient une odeur d'algues et de crème solaire. On entend au loin des enfants rire et jouer. Anne-Catherine plonge dans ses souvenirs d'été, et part en direction d'un autre lac qui sentait bon la forêt.
La vallée de Joux, c'est tout pour moi. C'est l'air que je respire, cette odeur de résine de nos sapins, ce vert des pâturages, ce bleu du lac, les gens que je connais, ça a été mon existence, l'oxygène y est bon, et je n'ai qu'un seul désir à la fin de ma vie, c'est de pouvoir reposer dans un des cimetières de nos villages.
Béatrice perçoit la nostalgie dans les yeux de son amie, de 7 ans sa cadette. Elle lui pose la main sur l'épaule et l'incite gentiment à venir jouer. Pour rire, elle le lui propose en anglais, avec un accent londonien. et Anne-Catherine pouffe en se souvenant des vacances chez sa grand-mère au sud de Londres, à l'époque où la ville swingait et où l'on y croisait toutes sortes d'énergumènes au look travaillé. Quel contraste entre sa douce vallée de joue et cette mégalopole. Anne-Catherine soupire, ajuste son cardigan mauve et se dit que c'est elle, ces deux univers. Un drôle de mélange entre la nature suisse et l'énergie anglaise. Elle envoie un clin d'œil à son amie Béatrice qui se plie tout doucement en deux pour attraper ses boules de pétanque dans la remise. En se redressant, la vénérable et énergique mamie de 88 ans a la tête qui tourne. Elle repense au sprint qu'elle effectuait sans être essoufflée lorsqu'elle devait, à 20 ans, attraper le tram à Lille.
Bon, allez, maintenant on va bouger, on va aller sur Roubaix.
Ouais, au nord.
Alors oui,
au nord de Lille.
En fait, c'est une ville neuve, Roubaix. Lille, c'est une ville très ancienne, mais Roubaix et Tourcoing, c'est des villes qui sont nées de la révolution industrielle au 19e, c'est né avec la machine à vapeur. Pour se rendre à Roubaix, ce que j'ai fait, c'est prendre le tramway.
J'en avais entendu parler, je sais que les trams sont jaunes.
Alors, ah non, alors voilà, alors, je vais vous décevoir.
C'est tout faux.
Parce que le vieux tramway, que tout le monde appelait d'un nom sympathique, on l'appelait le Mont-Gy, il a fait des dizaines et des dizaines d'années de bons et loyaux services, mais il vient d'être mis à la retraite, le Mont-Gy.
Béatrice s'est redéployée, ses genoux lui font un peu mal, mais elle choisit de les ignorer. Elle s'appuie au bras d'Anne-Catherine et lui propose de faire équipe, comme toujours. Elles seront opposées cet après-midi à Marcel le Marseillais et Cornelia. Et elles poussent ensemble leur cri de guerre « Hop, hop, hop !» Un peu comme quand elles obtenaient un vote favorable au Conseil d'État vaudois où leur route déjà s'était croisée. Béatrice se souvient très bien de son arrivée en Suisse, de son soulagement de s'installer dans une ville plus vivante que Roubaix où elle a grandi. Et elle n'a pas oublié le sourire de son amie et collègue politicienne Anne-Catherine quand elle a prêté serment au château. Une ville qu'elle a adoptée comme sienne après des années de pérégrination en Afrique, avec des moments plus tragiques que d'autres.
C'est de l'enterrement industriel, que voulez-vous, il faut s'y faire. L'adjudant-chef français Duplessis dirige les opérations d'ensevelissement et de collecte des corps dans la ville de Goma et dans les camps alentours. C'est un défilé incessant de semi-remorques et de camions à viande, chargés de cadavres, qui est venu déverser ses tristes cargaisons dans de gigantesques fosses communes. Ce ballet macabre a rythmé la vie des 1,5 million de réfugiés rwandais de Goma.
Béatrice essuie une larme en repensant à cette terrible année 1994 où elle était partie au Rwanda pour l'ONU. Elle n'a jamais réussi à évacuer de son esprit ces images insoutenables de cadavres au bord des routes. Elle se souvient du proverbe arabe que lui avait glissé son homologue palestinienne et le murmure maintenant dans sa barbe. « Yum asal, yum basal. Un jour du miel, un jour des oignons. » Et elle se dit qu'aujourd'hui, en 2044, il est hélas toujours aussi véridique. Rien ne s'est calmé du côté de Gaza et le nouveau président russe continue sa progression en annexant toujours plus de territoire. Hé, Béatrice, tu tires ou tu pointes ? Marcel manifeste son agacement poliment. Cela fait quand même bien 10 minutes que tout le monde attend que Béatrice fasse quelque chose de la boule qu'elle tient à bout de bras. D'ailleurs, elle commence à avoir mal au bras. Ses muscles ont fondu avec les années. Béatrice lui chuchote de pointer, elle s'exécute et éjecte les boules de la partie adverse. Marcel et Cornelia hurlent en râlant et Anne-Catherine saute de joie du haut de ses 81 ans. En atterrissant, elle sent une légère douleur à la cheville droite. Une vieille blessure qui date de son tour du monde dans les années 80 quand elle avait sauté trop tôt d'un train en Inde. Un train qui n'était pas encore tout à fait arrêté.
La ligne Mumbai-Calcutta, créée sous l'Empire britannique à la fin du 19e siècle, était auparavant réservée aux colons anglais et à leurs domestiques. Aujourd'hui, ce train est accessible à tous. Les billets vont de 4 à 50 euros. Toute la société indienne se croise dans ces voitures.
Jai, jai.
Rajesh Patan arpente le train de bout en bout depuis 10 ans. Traverse toutes les classes. Il vend ici du chai, ce thé aux épices, typiquement indien.
Le chai, c'est excellent. Les passagers en raffolent, le matin comme le soir. Tous les passagers prennent au moins une tasse avant de descendre du train. C'est obligatoire.
Anne-Catherine se masse la cheville puis se dirige vers le bar dans la petite tente. Elle verse pour elle et sa partenaire de pétanque deux tasses d'un thé sucré et épicé, ce fameux chai qu'elle a bu abondamment au fil de son voyage en Inde. En trinquant avec Béatrice à leur victoire, elle voit leurs quatre yeux briller et se dit que finalement, malgré les petits bobos, elles ont une chance inouïe d'avoir vécu deux vies aussi intéressantes. Et ce n'est pas fini. En riant, Anne-Catherine lance un toast. À notre voyage pour tes 90 ans.
Ah
Ah, vous êtes pas mal aussi en conteuse de science-fiction, Mélanie.
J'achète.
Bon, 2044, alors, 88 et 81 ans, respectivement, Béatrice Métrou, Anne-Catherine Lyon, c'est comme ça que vous aimeriez vous voir?
Oui, tout à fait.
En essayant de pointer ou de tirer à la pétanque?
Voilà, pourquoi pas la pétanque, les marches à 88 et 90 ans, on peut très bien encore marcher. On a encore une belle condition physique, Anne-Catherine et moi. On espère qu'on va la garder le plus longtemps possible. Oui, le thé, la pétanque, les rêves, les échanges, les sourires.
Dans 20 ans.
Et le voyage, ouais. Ça me va bien.
Bon.
Non, j'ai beaucoup aimé ce portrait, c'est vraiment tellement extraordinaire de pouvoir bénéficier d'un récit comme ça, futuriste, et un beau récit qui évoque aussi le passé. Mais quand on y pense, 81, Madame Jacques-Berger était encore largement présidente.
Et à 88, dans 20 ans, vous serez peut-être encore en place.
On sera peut-être encore en place. Et nous espérons que nous aurons passé. Nous sommes actuellement 20 000 membres. On ne l'a pas relayé ou indiqué tout à l'heure. 20 000 membres, espérons que nous serons à 100 000. On pourrait se fixer cet objectif.
Alors, Béatrice Métrou, vous avez passé les 25 premières années de votre vie à Roubaix, même si vous êtes née à Arcachon. Première 25 années passées à Roubaix qui était, je vous cite, une ville sinistrée.
Oui, sinistrée parce que, au fond, dans le nord de la France, après la guerre, bon, la sidérurgie, il y avait des entreprises de sidérurgie, je pense notamment à Usinor. Il y avait les entreprises textiles. Moi, j'en avais au bout de ma rue, des entreprises textiles. J'habitais rue de Lille, à Roubaix. Il y avait une entreprise pas très loin. Et puis, un institut qui formait les gens à la connaissance textile. Donc, la sidérurgie, le textile, tout ça, ça s'est effondré. Et puis, plus loin, il y avait les mines. Tout ça, ça s'est effondré. Et moi, j'ai vécu dans les années 70, 65, un Roubaix complètement sinistré, avec beaucoup de chômage, avec une très grande précarité, avec de la pauvreté. Vous savez, l'aide à toute détresse, ATD Carmonde.
Ah oui, ça veut dire ça, ATD.
ATD, aide à toute détresse. Ça vient du Nord, ça. Ça a été créé dans le Nord parce qu'il y avait un certain nombre de... La population vivait vraiment pas très très bien. On avait encore les courées, donc des espèces de couloirs dans les rues avec des maisons d'une seule pièce, un robinet et une toilette pour 10 ou 15 personnes. Mais vous n'imaginez pas ce qu'on a pu vivre. Et je dois dire que... Bon, moi, j'ai quitté le nord de la France en 79, quand je suis partie au Sénégal rejoindre mon compagnon. Mais après, grâce à l'Europe, grâce au financement européen, grâce à l'énergie des nordistes, parce que les gens du nord sont des gens énergiques et des gens pleins d'idées, le Nord a pu renaître. Mais le textile, la sidérurgie, les mines, tout ça, c'est fini.
C'est les ferments de votre engagement politique d'avoir connu cette période-là?
Alors, l'engagement, je dirais, l'engagement social. L'engagement social parce que j'ai vu des choses qu'on ne peut pas imaginer en Suisse. Même encore maintenant. Et l'engagement aussi environnemental. Quand vous voyez les plaines où il y avait les mines qui sont complètement quand même polluées, quand il y a eu aussi les premières discussions sur la centrale nucléaire de Gravelines, où nous on était très inquiets étant enfants, où ce nord était pollué, où il pleuvait tout le temps, où c'était
gris. Il y avait des usines aussi. Voilà. Vous rêviez à quoi, vous, Béatrice Métrou, à cette époque-là?
Moi, je rêvais de voyager.
Bah, ce que vous avez fait.
Ce que j'ai fait,
vous avez beaucoup travaillé à l'étranger aussi, c'est pas que des voyages.
J'avais pas envie de rester dans le Nord. Moi, j'ai une partie de ma famille qui est restée dans le Nord, mes frères et sœurs sont restés dans le Nord. Moi, je suis partie. Voilà, je suis partie, j'ai rencontré mon mari, je suis partie, je l'ai suivi.
25 ans, vous êtes partie.
Voilà, ou même avant. Même avant.
Et puis, vous êtes arrivée en Suisse avec votre mari.
Voilà, je suis arrivée en Suisse. Bon, lui, il est suisse, donc.
Lui, il est suisse, ouais.
Voilà. Alors, moi, je suis arrivée en Suisse bien avant 79 et j'ai aimé ce pays, j'ai aimé les gens, j'ai aimé l'accueil que ma belle famille paysanne m'a fait. J'ai découvert l'agriculture, j'ai découvert les communautés qui s'entraident. Et c'est pas un vain mot. Dans le Nord, on avait ça, mais c'était des communautés urbaines. Et là, j'ai intégré un milieu rural qui m'a fait une très, très belle place. Et mes beaux-parents ont disparu, mais je leur dois beaucoup. dans cette intégration et dans cet amour de la Suisse. Et puis avec un mari forestier, j'ai parcouru toutes les forêts du canton, toutes les forêts à voir en Suisse. On a beaucoup marché, on continue à beaucoup marcher. Et voilà, c'était une autre vie, une vie beaucoup plus ouverte sur l'environnement, sur tout ce qui me tenait à cœur étant enfant, mais à Roubaix, la biodiversité et l'environnement, c'était un peu compliqué.
Pas facile à trouver, mais vous avez parlé de la ferme de votre fils,
oui.
Donc il y a eu transmission aussi.
Il y a eu transmission. Alors ce qui me manque, moi je vais vous dire ce qui me manque, c'est les plages du Nord.
Ah ben oui.
Et la luminosité.
Bon, le lac Léman, c'est pas mal aussi, parfois.
Oui, c'est bien.
Le lac moins vaste. Beaucoup,
oui,
c'est moins vaste.
C'est vrai.
Il n'y a pas la même histoire, mais les paysages sont parfois fantasmatiques.
Et vous savez, les plages
aussi.
Où vous marchez pendant des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres, le sable, la mer, le ciel gris, les nuances bleues, violets, les oiseaux.
Ah, ça, on n'a pas ici. Puis marcher le long du lac des kilomètres, c'est pas possible parce que les rives sont privatisées.
C'est compliqué.
Ça, c'est un autre sujet.
Enjamber des barrières.
Il faut enjamber des barrières, des murs. Anne-Catherine Lyon, alors, c'est pas du tout la même enfance. Vous, c'est la Suisse. C'est, alors, la vallée de Joux, si on l'a entendu. Et puis, il y a un engagement qui est très important pour vous. Nous sommes de la même génération. C'est 92. C'est le nom à les haies. Votre engagement politique, en tout cas, date de ce soir-là ou de ce moment-là.
Absolument, ça a été vraiment un choc. Et à cette époque, je faisais des études en droit européen à Bruxelles, à l'Université libre de Bruxelles. Et lorsque l'on est hors de son pays, on le regarde différemment. Et j'ai appris à aimer la Suisse, et aimer la Suisse romande en particulier, mais la Suisse tout entière, en vivant à l'étranger. Je suis restée en Belgique pendant 18 mois pour faire ses études, un master en droit européen, si on prend le terme d'aujourd'hui, et d'être au contact de nombreux pays, parce que c'était un master pour les étrangers, dont les pays allait entrer dans la communauté européenne à l'époque, maintenant Union européenne, ainsi que des gens d'Amérique latine, parce qu'il y avait le grand accord ALENA avec les États-Unis, donc il y avait toute une diversité d'étudiantes et étudiants. J'ai beaucoup aimé ça. Et de vivre au cœur de l'Europe le vote négatif sur l'adhésion de la Suisse, non pas à l'Union européenne ou communauté européenne, mais à l'EE, qui était un pas qui aurait été vraiment le meilleur pas probablement pour la Suisse, eh bien ça résonnait encore plus fort. Et mon engagement date de ce moment-là. Il s'est concrétisé en décembre 93 en rencontrant un petit groupe qui militait pour les institutions, pour les droits des femmes et l'Union européenne, Renaissance Suisse-Europe.
Ouais, ça s'appelait comme ça, Renaissance Suisse-Europe. Ouais. C'est assez vintage aujourd'hui,
voilà,
mais c'était le début.
Oui, avec en particulier François Chery, qui était la cheville ouvrière, l'animateur, le penseur de ce petit mouvement. Petit par le nombre de membres, mais grand par l'ambition. Et puis, il y a aussi un élément qui est vraiment pour moi très, très important, qui est le fait d'avoir une autre nationalité. Ma mère est anglaise. Et d'avoir en permanence d'être totalement d'un endroit, mais aussi d'un autre. Et le fait d'aller chaque année rencontrer les grands-parents en Angleterre, c'était un magnifique voyage. Mes deux parents d'ailleurs m'écoutent en ce moment et ils se remémoreront ces voyages extraordinaires. On partait de Lausanne, on partait le soir tard, on est trois enfants, on était installés à l'arrière de la voiture, mon père conduisait, ma mère avait préparé les sandwichs, le café, etc. Généralement, on avait déjà tout fini le pique-nique à Valorbe et on devait aller jusqu'à Calais. Et je me souviens de cette traversée de nuit de la France. Nous, on était les enfants couchés derrière, on regardait comme ça les villes que l'on traversait.
Il n'y avait pas de siège enfant.
Non, on était vraiment super bien installés. Et mon père qui conduisait avec ma mère qui était copilote et on prenait ensuite le bateau pour traverser la Manche. Et c'est des souvenirs vraiment extraordinaires, très très forts. Et le fait d'être d'ici et d'ailleurs, c'est le cas pour Béatrice aussi, c'est peut-être aussi un des éléments de ce lien que nous avons, d'être de deux pays, mais les aimer autant l'un l'autre.
J'allais dire deux pays qui désormais ne sont pas dans l'Union Européenne.
Ah, tout à fait. Ah,
parce que la Grande-Bretagne
vraiment...
est sortie il y a 8 ans.
Ouais, ça, quelle folie.
Là, vous avez le pompon, là, les
là,
deux, il n'y en a aucun qui est dans l'Union Européenne. Hein.
Exactement. Ça, je dois dire que c'était un immense regret. Le 92, c'était vraiment un grand regret, mais le Brexit, ça, c'est une catastrophe. catastrophe. Et on peut
vous
voir.
Vous aviez encore un pied dans l'Europe, puis finalement.
Voilà, j'avais un de mes deux passeports marchait. Maintenant, je les chéris autant l'un et l'autre, puisqu'ils représentent évidemment la famille. Ouais. C'est mon identité.
Béatrice Métro, vous aviez suivi ça, le nom de la Suisse allait et vous étiez assez intéressée par la Suisse à l'époque, en 92, pour voir ce qui se passait, ou c'est venu plus tard?
Non, j'étais très intéressée en 92. Moi, j'avais la nationalité suisse.
Ah, vous étiez déjà, oui, vous y étiez déjà.
Vous savez, tout à l'heure, on a parlé de la rente de veuve et puis de la
l'égalité
par le bas. Eh ben, on a fait la même chose avec les nationalités. Moi, j'ai pu obtenir la nationalité suisse parce que je me suis mariée avec un Suisse. Donc, moi, étrangère, mariée avec un Suisse, j'ai eu la nationalité suisse.
C'était bon.
Maintenant, ça, c'est terminé. Et il y a l'égalité par le bas. Autrement dit, les femmes étrangères qui épousent les Suisses n'obtiennent pas automatiquement la nationalité suisse, puis qu'il y a toute une procédure. Bref.
C'est devenu aussi difficile pour une femme étrangère que pour un homme étranger.
C'est l'égalité par le bas.
Oui.
Mais moi, j'ai pu bénéficier de ça. Donc, j'ai voté. Et puis, bien évidemment, j'ai voté pour l'espace économique européen. Je le dis très clairement. Parce que je venais d'une région sinistrée, je le redis, dont le dynamisme a été porté par l'Union européenne.
Oui. Et puis, on n'y est toujours pas 30 ans après. C'est une incongruité. C'est quelque chose qui ne se passera plus. Comment vous voyez les choses? C'est toujours, alors vous n'êtes pas socialiste, mais je crois que c'est toujours dans le programme du PS, hein, l'adhésion à l'Union européenne. Ça doit être quelque part dans un tiroir, hein. Ça n'a pas été effacé. Vous confirmez, Anne-Catherine Lyon. Les Verts aussi, évidemment, être pour
l'Europe. Mais il y a l'initiative des Verts pour inscrire dans la
Constitution. Absolument.
Au fond, l'attachement à l'Europe. On est attaché à l'Europe. On est attaché aux valeurs de l'Europe. Que ce soit des valeurs politiques, des valeurs chrétiennes, je suis navrée de le dire, mais il y a quand même ça. Il y a toute cette histoire de l'Europe qui nous unit, et nous, on est au milieu, et voilà, moi je suis attachée à cette idée européenne et à cette idée de consensus, à cette idée de compromis, à cette idée de travailler ensemble, à cette idée de défendre les peuples ensemble. Moi, je pense que l'Europe, c'est la défense des peuples. Alors, c'est pas perçu comme ça, mais c'est la défense des peuples et la défense des intérêts de tout un chacun, et non pas des intérêts politiques.
Les contempteurs de l'UE disent que Bruxelles décide tout à la place des peuples, précisément. C'est la critique générale.
Oui, bien sûr. Enfin, la critique est aisée, l'art est difficile. 27 pays, c'est quand même difficile à manier.
Peut-être un peu trop. Ça a peut-être grandi un peu trop vite, non ?
Je ne crois pas. L'idée européenne de Jean Monnet, c'était bien de faire cette union des peuples. Et moi, je crois très fort à ça.
Anne-Catherine Lyon, vous souhaitiez
Disons tout ce que dit Béatrice résonne fortement. Je voulais évoquer aussi l'initiative Oui à l'Europe. J'étais dans le comité d'initiative. Le mouvement Renaissance Suisse-Europe a fusionné avec le mouvement européen suisse pour devenir le nouveau mouvement européen suisse, le NOMES. Nous avions, qui est encore tout à fait actif, et nous avions lancé cette initiative populaire. On a réussi, on n'était pas beaucoup. Et c'était une période assez héroïque, à récolter les 100 000 signatures qu'il fallait en allant dans l'ensemble du pays. Et le vote du peuple avait été vraiment assez cinglant. Contre, ça c'était vraiment pour l'adhésion, c'était le pas de plus. Moi, ce que je trouve, que ce soit de l'attitude d'un État vis-à-vis d'un collectif ou d'un individu vis-à-vis d'un collectif, c'est pour moi la même chose, c'est vouloir toujours prendre que les avantages, les bénéfices, l'intérêt, et jamais vouloir contribuer, participer à chercher des solutions. Et cette position en permanence opportuniste, je me déplais souverainement, disons. Ça, c'est vraiment des fois un peu le destin de la Suisse. Petit pays qui joue le mieux ses cartes, bien évidemment. Mais là, c'est dommage. Nous pourrions amener aussi par toute la démocratie directe, les outils, l'initiative populaire pourrait tout à fait intégrer les outils européens, le référendum et ainsi de suite. Donc, ça permettrait vraiment de revitaliser cette dimension-là.
La voix du peuple ou des peuples, on sait ce que ça veut dire en Suisse. Anne-Catherine Lyon, Béatrice Métro, vous êtes avec nous dans cette drôle d'époque, co-présidente de la Vivo. On y reviendra. Et là, on part en France, dans le sud-ouest, c'est Toulouse, Claude Nougaro.
Drôle d'époque sur la première. Mélanie Crobalion, Simon Mathé Doré.
Qu'il est loin mon pays, qu'il est loin. Parfois au fond de moi se ranime l'eau verte du canal du Midi et la brique rouge des minimes où mon pays, au Toulouse, au Toulouse. Je reprends l'avenue vers l'école. Mon cartable est bourré de coups de poing. Ici, si tu cognes, tu gagnes. Ici, même les mémés aiment la castagne. Oh mon pays, oh Toulouse, un torrent de cailloux roule dans ton accent. Violence bouillonne jusque dans tes violettes. On se traite de con à peine qu'on se traite. Il y a de l'orage dans l'air et pourtant l'église Saint-Cernin illumine le soir d'une fleur de corail que le soleil arrose. C'est peut-être pour ça, malgré ton rouge et noir, c'est peut-être pour ça qu'on te dit ville rose. Je revois ton pavé, ma cité gasconne, trottoir éventré sur les tuyaux du gaz. Est-ce l'Espagne en toi qui pousse un peu sa corne? Ou serait-ce dans tes tripes une bulle de jazz? Voici le Capitole, j'y arrête mes pas. Enrhumés tremblaient sous leurs ventouses. J'entends encore l'écho de la voix de papa. C'était en ce temps-là mon seul chanteur de blues. Aujourd'hui tes buildings grimpent haut. À Blagnac, tes avions sont plus beaux. Si l'un me ramène sur cette ville, pourrais-je encore y revoir ma pincée de tuiles? Au mon pays, au Toulouse, oh Toulouse.
Inégalable, inimitable Claude Nougaro qui chante sa ville rose, Toulouse. Et vous, Anne-Catherine Nyon et Béatrice Métro, quelle est la ville que vous chanteriez, votre ville de cœur? Tiens, posons la question comme ça.
Ma ville de cœur, ce serait Lille maintenant. Lille, parce que c'est une très belle ville, pleine d'histoire, je le redis, qui a su sortir des difficultés, qui a su redynamiser son territoire, sa population.
Ville très jeune et studentine.
Moi, j'ai fait mes études de droit à Lille. J'étais dans une faculté où, pour y aller, on devait encore traverser les champs. Ça serait juste pas possible en Suisse.
Il n'y a plus de champs maintenant.
Maintenant, il n'y a plus de champs. Il y a des autoroutes et des rocades. Enfin bref, il y a tout un tas de moyens de routes. Voilà. Pour moi, Lille, c'est la ville de l'espoir. La ville du développement, la ville de la reconversion, la ville...
C'est une ville phénix, en fait.
Et c'est une très belle ville, une très très belle ville. Cela dit, j'aime beaucoup Lausanne aussi.
Je me demandais à quel moment ça allait venir.
Vous savez, 25 ans dans le Nord, ça ne s'oublie pas. Voilà, j'aime beaucoup Lausanne, j'aime les escaliers du marché. Quand j'ai débarqué à Lausanne pour la première fois, je me suis dit, c'est quoi ces petites rues où on monte des escaliers comme ça? J'avais jamais vu ça de ma vie. Puis après, on est descendu au lac avec mon compagnon et j'ai trouvé ça magnifique. Mais je suis attachée au Nord, comme vous pouvez le croire.
Anne-Catherine Lyon, ville de cœur, la vôtre.
Moi, j'ai envie de dire que c'est... L'arc lémanique, au fond, ça, c'est une grande ville.
Bah oui, c'est une ville de quoi? Il y a 1 million d'habitants sur l'arc lémanique, à peu près, hein. Donc, on a les problématiques d'un urbanisme d'un million d'habitants, en fait.
Absolument. Et c'est la proximité de l'eau, que ce soit le lac Léman, que ce soit la vallée de Joux, on l'a évoqué, ou disons toute la vie au bord des lacs ou au bord de l'eau. Et lorsque j'étais à Bruxelles, que j'ai énormément aimé, l'eau est cachée, les canaux à Bruxelles ont été refermés, et il y avait toujours pour moi cette aspiration, comme un sourcier, disons, qui essaie de trouver l'eau. C'était dur de s'orienter dans cette ville que je trouve fantastique, je l'ai beaucoup aimée, j'y suis retournée par après et tout ça, parce qu'il n'y a pas l'eau. Ou bien d'être au bord de la mer, c'est vraiment cette proximité avec l'élément, j'allais dire marin, on sait que là, c'est pas la mer, mais
aquatique,
ça ressemble.
En tout cas, aquatique, vivre dans une ville avec ou sans
avec
eau, c'est
de
différent.
L'eau,
Alors, l'entrée en politique, on a compris que, en tout cas, la passion de la politique et l'envie de s'engager chez Anne-Catherine Lyon, c'est le nom à aller en 92. Chez vous, Béatrice Métro, vous avez toujours eu la passion de l'actualité de la politique, on imagine, à vous entendre. Mais l'entrée, c'est première élection 2002, municipalité de Botan. Ça s'est fait comme ça.
Voilà. J'habitais Botan depuis 1988. C'était au milieu de l'arrondissement forestier de mon mari, qui était inspecteur forestier de cet arrondissement-là. On avait choisi Botan parce que c'était pile au milieu, donc il allait jusque Belmont et puis jusque Thierrens, donc c'était bien. Et un des municipaux a démissionné, et plusieurs personnes du village, que je remercie ici, qui se reconnaîtront, m'ont demandé de postuler, de me mettre en avant. J'étais la seule parce que personne ne voulait à l'époque être municipale. J'avais travaillé à la justice de paix, donc je connaissais déjà pas mal de gens du village, la communauté catholique aussi. Et ça s'est fait comme ça. Je suis rentrée municipale et puis élue parce que j'étais la seule. Donc c'était pas une élection brillante, je dois le reconnaître. Mais au moins j'étais élue.
Mais une carrière politique était née à ce moment-là.
Voilà, exactement.
L'élection au Conseil d'État, 2002 pour vous Anne-Catherine Lyon, 2012 pour vous Béatrice Métro, il nous reste une minute. Quelles sont les sensations,
les émotions
qui vous ont traversé l'esprit quand vous y repensez? C'est quoi là qui revient en premier?
Le moment de l'élection, quand on est choisi par le peuple, ça veut dire on est choisi par les gens qu'on connaît, mais tellement au-delà, parce que c'est des dizaines de milliers de personnes qui portent
énorme responsabilité.
Le choix. C'est la responsabilité, mais il y a l'euphorie immense du moment de l'élection, et moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est la première prestation de serment. C'était le 23 avril 2002, où tout à coup, j'ai senti au moment de dire « je le promets », le poids de la responsabilité, mais qui n'est pas écrasant, mais qui est fort et puissant.
We'll be right back.
Les émissions de la journée, en nouvelle diffusion pour accompagner vos nuits. La première, il est 2h.